Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h02 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, bien sûr, spécial Coupe du Monde, avec Jean-Louis Tour en direct de Doha, avec Jean-Michel Larquet et Pascal Olmeta ce soir. On est avec Flo Germain aussi qui nous commente admirablement bien, comme d'habitude, les matchs de football et en l'occurrence ce Espagne-Costa Rica 3-0 pour l'instant pour les Espagnols à la mi-temps. Et oui, il n'y a pas que nous qui marquent des buts. Oui. L'Espagne est là, assume son statut, pas de favori, parce que c'est pas des favoris, mais des bons outsiders.
On suit évidemment ce qui se passe sur Espagne. Costa Rica, et en plus de ça, il y a des débats autour de l'actu de la Coupe du Monde. Demain, entrée en lice du Brésil face à la Serbie à 20h. Va-t-on voir dès demain le grand Neymar ? On entendra ce qui s'est dit en conférence de presse de veille de match tout à l'heure avec Timothée Mémon. Et puis l'actu des Bleus, Giroud, est-il légal d'Henri en équipe de France ? Le débat également dans une seconde. Mais tout de suite, la seconde période d'Espagne-Costa Rica.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com.
Et on a toujours notre maillot de l'Espagne à vous offrir grâce à RMC et Foot Corner. Vous envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Au moment où les joueurs du Costa Rica sont de retour sur la pelouse, ils sont tous en cercle pour essayer de se remobiliser. Là, Jérôme, faut être bon dans les discours pour remobiliser du monde.
C'est surtout qu'ils se regardent les pieds pour essayer de remettre les pieds à l'endroit, parce que là, il y en a beaucoup qui ont les pieds carrés dans cette équipe du Costa Rica. Alors, et entre les joueurs qui ont les pieds carrés et le gardien qui n'a pas ses gants et pas ses mains, là, on est mal barré.
T'es impitoyable avec les gardiens.
Non, mais franchement, alors
que tu dis que tu les apprécies bien, les gardiens en général. Hein.
Mais oui.
Mais bon.
Et Keylor Navas, moi, ça me fait mal au cœur de le voir à ce niveau-là.
Mais il fait une demi-faute en plus, c'est pas non plus une cagade ce qu'il fait.
Écoute, c'est le niveau de l'équipe.
Oui, Pascal.
Ah non, mais c'est vrai, t'as raison.
Tu verras, quand je dis 6-0, tu vas voir. Écoute, regarde bien.
Flo Germain est de retour avec nous. En même temps, les Espagnols.
Exactement.
Il y a eu un changement côté Costa Rica, il me semble.
Watson qui est entré en jeu à la place de Carlos Martinez. 3-0 pour l'Espagne. Dani Olmo, Asensio et Ferran Torres pour les buteurs. Et pour vous raconter la petite scène, je suis à côté d'une radio nationale du Costa Rica, Teletica Radio. Ils sont très agacés par l'attitude du Costa Rica, à savoir qu'ils ont l'impression que ça joue les victimes, qu'ils sont restés derrière, qu'il n'y a aucune âme, aucun caractère. Et eux aussi ont le sentiment, comme le disait à l'instant Pascal, que si ça continue comme ça, ils vont s'en prendre 5 ou 6 et il n'y aura absolument rien à dire. C'est reparti dans cette seconde période. On verra si le récital se poursuit. En tout cas, l'Espagne démarre début très très fort sa Coupe du Monde. 3-0 pour les Espagnols, Olmo, Asensio, Ferran Torres, et c'est reparti donc dans cette deuxième mi-temps.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas un bug, donc on l'a vérifié aussi chez Jérôme. Est-ce que vous avez une idée de la possession de balle, Jérôme? Je sais que tu l'as vu, mais Jean-Michel ou Pascal?
Non, je ne l'ai pas vu, mais je dirais 85%.
Moi, tu l'as vu.
Ouais, tu l'as vu.
Non, je vous jure.
C'est exactement 85% pour l'Espagne.
Je vous jure, sur la tête où je l'aurais vu.
Non, mais t'es pas obligé de jurer, Jean-Michel.
Sur la tête de Romy. Sur la tête de Romy.
En direct, oui, là, la tête de Romy qui est en train de manger.
On l'embrasse, Romy. On dirait du West Bester.
Du West Bester.
Bon, on te croit, Jean-Michel. Donc 85% pour l'Espagne, 80, c'est quand même hallucinant. Dans un match de Coupe du Monde.
C'est pas génial ce que j'ai dit. Oui, ça ressemble à ça à peu près. Heureusement qu'ils ont été touchés des 6 mètres, quoi.
Mais parfois, 70-30, on se dit déjà que c'est écrasant. Là, tu te rends compte, tu pousses à 85-15.
Le plus grave...
85-15, moi, j'ai dit 85-25, moi, ça faisait 110, moi.
Le plus grave, c'est que les 15% de possession de balles, ils l'ont eu dans leurs 30 mètres. C'est ça le plus grave, parce qu'à l'arrivée, Flo, tu vas confirmer, mais je ne suis même pas sûr qu'ils soient venus une fois dans les 30 mètres des Espagnols, les costariciens.
On a Simon, je crois qu'il a touché 3 ballons. Donc, tu vois, c'est
Pascal, tu aurais pu jouer dans les buts de l'Espagne, tiens.
On peut toujours, on peut.
Hein. Non, mais même Alphonse Areola aurait pu jouer là.
Mais arrête. Infernal. Alphonse Areola, je pensais que ça allait tomber sur Mickaël Landreau.
Je l'embrasse, Pascal, Mickaël nous écoute tous les jours.
Toi, Pascal.
Jean-Louis, tu vas quand même pas comparer Alphonse Areola à Mickaël Landreau.
Pourquoi? C'est si dingue que ça comme comparaison?
T'abuses. Là, tu fais exprès.
Ah oui?
Écoute, Mickaël Landreau, regarde son palmarès et regarde le nombre de matchs qu'il a. Il les a pas fait par hasard quand même.
D'accord. C'est vrai.
Bah oui.
Mauvaise comparaison.
Bah oui.
Bon, ça me fait du bien de t'entendre dire du bien de Mickaël Landreau. Ça change un peu.
Ouais, voilà. Oui,
il a dit pas du bien, c'est des chiffres qu'il donne.
Non, si, il en dit du bien. Il s'entend bien avec Mickaël Landreau. Il faut quand même le rappeler à chaque fois. C'est dire les relations qu'il a avec ses amis.
Mais par moment, je lui disais, peut-être, tu ne serais pas mieux latéral que gardien de but, Mika.
Allez, 3-0 pour l'Espagne contre le Costa Rica.
Attention vers Asensio. Asensio, pourquoi pas le quatrième? La frappe juste au-dessus. La frappe de Marco Asensio est-elle contrée? Cette frappe, Asensio réclame un corner. En tout cas, non,
moi,
c'est
j'ai
un.
J'ai pas l'impression,
c'est
hein,
un
je crois pas.
Je crois pas, ça passe. Peut-être ça a été effleuré, je sais pas. En tout cas, 3-0 pour l'Espagne, on le rappelle. Daniel Olmo, Asensio et Ferran Torres, les buteurs.
Ça, c'est un bon truc quand même. Tu rates complètement ta frappe.
Et tu dis à l'écouter.
Il est contré.
Il y a le corps complètement en arrière, déséquilibré. Non, ouais, c'est pas le bon geste.
Le corps en arrière, Jean-Michel.
Il tombe. Ah ouais, la position du corps.
Voilà, bien sûr. Allez, l'équipe de France. Olivier Giroud, Fabrice Hawkins est de retour avec nous.
Ah, oui.
Giroud qui a égalé donc Thierry Henry hier. 51 buts en équipe de France, comme Henry. Giroud, il lui reste encore du temps pour le dépasser désormais, peut-être dès le prochain match. Fabrice, retrace-nous un peu la soirée d'Olivier Giroud.
Eh bien, doublé, tout simplement, et beaucoup d'émotions pour Olivier Giroud. Jusqu'ici, il n'avait marqué qu'un seul but en Coupe du Monde. C'était le 20 juin 2014 contre la Suisse. Là, il met un doublé. Et en plus, il égale, tu le disais, Jean-Louis, le record de Thierry Henry avec 51 buts en équipe de France. Écoutez l'attaquant du Milan, c'était hier soir, quelques minutes après la rencontre. Forcément très heureux.
Sur le plan personnel, évidemment, que je pouvais guère espérer mieux. C'est une grande fierté, mais je compte pas m'arrêter là. Voilà, j'espère continuer dans la compétition pour aider l'équipe à réaliser notre objectif. Voilà, toujours en prenant les matchs les uns après les autres, monter en puissance. Et, c'était important de bien se lancer dans la compétition avec ces 3 points.
Bon, il fait un petit peu la fine bouche sur la fin, mais je peux vous dire qu'il était très très heureux. Je l'ai vu dans les couloirs en train de saluer et de prendre dans ses bras, surtout ses coéquipiers, Antoine Griezmann notamment, Olivier Giroud. C'est un peu le joueur qui n'est pas forcément le choix numéro un au départ, mais qui à force de travail et d'abnégation s'impose comme une évidence. Cette fois, l'absence de Karim Benzema lui permet aussi d'avoir ce statut de titulaire. Il revient de loin, son capitaine Hugo Lloris peut en témoigner.
Je crois qu'Olivier a toujours répondu présent pour l'équipe de France. Je crois qu'il a le mérite d'avoir jamais lâché. Et quelque part, c'est très exemplaire de sa part. Malheureusement, on a perdu Karim sur blessure et on était tous très déçus. Et Olivier le premier. Mais il a fallu avancer. Et on sait qu'on peut compter sur tout le monde. Et on peut compter sur Olivier.
Un petit but, il ne lui reste qu'un petit but pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et il pourrait réaliser cette performance dès samedi contre le Danemark.
Merci Fabrice. Alors Jérôme, est-ce que Giroud est désormais l'égal de Thierry Henry et pas qu'en chiffres avec ce nombre de buts?
Ah bon, pas qu'en chiffres? Donc si on parle des chiffres, bien sûr que c'est légal. Aujourd'hui, il l'a égalé. Donc,
ça n'aurait pas trop de sens comme débat.
Voilà. Et s'il le bat, il sera plus égal à Thierry Henry. Il l'aura dépassé. Donc.
Mais est-ce que dans l'histoire de l'équipe de France, ils sont à égalité? Ou est-ce que après, il y a encore un gros écart?
Ils n'ont pas laissé la même trace. C'est pas le même genre de joueur de toute façon. Thierry, je vais pas. C'est pour ça que c'est pas faire injure à Olivier. Attention, c'est 51 buts, il les a pas volés. Et j'espère qu'il en marquera d'autres aussi et qu'il permettra à l'équipe de France de passer les étapes qui vont arriver là dans quelques jours déjà. Mais après, on peut quand même pas comparer les deux joueurs. Il y a un monde d'écart entre les deux. Techniquement, au niveau de leur carrière aussi de club, l'importance qu'ils avaient dans leur club, la façon de jouer. En équipe de France aussi, Thierry, il est champion du monde comme Olivier. Bravo, il n'est pas champion d'Europe, Olivier. Malheureusement, ils ont perdu en finale.
Champion du monde sans être titulaire,
Oui, d'accord, parce qu'il était jeune. Mais bon, la carrière de Thierry, je sais pas, j'ai eu la chance d'être formé avec Thierry, de pouvoir jouer au très haut niveau avec Thierry en équipe de France par moment. C'est un joueur fabuleux, quoi. Donc, Thierry, il fait partie. Il fait partie des très très grands joueurs français, des internationaux français. Je dis pas qu'Olivier l'est pas parce que les chiffres sont ahurissants.
Et on peut pas les comparer.
Bah, c'est compliqué. Et puis même par rapport à la façon de jouer, je sais pas. Moi, pour moi, le football, je regarde du football pour voir des joueurs comme Thierry Henry et moins comme Olivier Giroud. Mais il en faut aussi des joueurs comme Olivier Giroud.
Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme ?
Ouais, mais c'est l'éternelle difficulté à comparer des joueurs déjà dans des équipes différentes, dans des périodes différentes, pardon. Même là, si c'est relativement proche, c'est à 10 ans, de 10-15 ans d'écart. Mais c'est tellement. Ils se ressemblent tellement peu dans leur façon de jouer que la comparaison est vraiment.
Mais
là,
après, on peut mettre d'autres critères aussi. L'apport à l'équipe, le palmarès.
Mais ça, il n'y a pas photo quand même.
Jean-Louis, quand tu compares deux cyclistes.
Le palmarès, non.
Palmarès, l'apport à l'équipe, je te parle.
Bah, Giroud, il est utile à l'équipe. J'ai l'impression que les autres, ils brillent toujours quand il est là.
Oui, mais Giroud a plus. Excuse-moi, Giroud a beaucoup plus et encore plus aujourd'hui besoin des autres que Thierry pouvait l'avoir. Thierry, c'est des joueurs, c'est comme Kylian Mbappé, c'est comme Dembélé, c'est comme Zinedine Zidane. C'est Michel Platini. T'imagines qu'avec ce débat-là, si on regarde que les stats de but, Giroud, il a déjà dépassé Michel Platini. Mais tu plaisantes quand même.
Non,
on va quand même pas comparer.
Non, c'est pas
on peut pas dire qu'il a dépassé Michel.
Ils avaient pas le même rôle non plus.
Non, mais d'accord.
C'était quoi ton analogie avec le cyclisme, Jean-Michel ?
Non, mais les cyclistes, on le fait souvent. Est-ce que Merckx est supérieur à Hinault, qui est supérieur à un tel ? Mais les cyclistes, à la limite, même si c'est impossible, mais les cyclistes, ils sont sur un vélo, ils pédalent. Un footballeur, il peut se servir de ses mains si c'est un gardien. Il peut être défenseur.
Oh, le quatrième but espagnol !
Chaque fois que je prends la parole, il y a
but. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est définitivement trop facile pour la Roja avec un doublé pour Ferran Torres qui se retourne. Franchement, Keylor Navas, alors là, il n'y est plus. Il n'y est plus du tout. Il s'est fait surprendre au duel par Ferran Torres qui se retourne, qui frappe en pivot sous le corps de Keylor Navas. Dépité, le visage défait, le gardien costaricien. En tout cas, l'addition va être très sévère. 4-0 pour cette équipe de l'Espagne face au Costa Rica.
Et la mine dépitée, évidemment, de Keylor Navas après ce but. Bon, je pense que autant pouvait essayer de le sauver avant, mais là, Navas, c'est compliqué. Non,
les gars, quand je vous dis 6-0,
ouais, tu vas pas être loin.
Non, mais quand tu vois que le défenseur lui-même il met le ballon en corner.
Tombe tout seul le défenseur.
Oui. Bah, il met protection.
Ils ont un problème.
Ils ont aussi des problèmes.
C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas qu'un problème, Pascal. Là, t'en fais pas.
Non, mais là, il n'y a pas qu'un problème. Bon. C'est sûr que. Ouais.
Bon, donc on ne peut pas comparer Giroud et Henry.
Non, mais juste pour rebondir sur la façon. Tu vois, il y a but et but. Mais Olivier Giroud, encore, je ne vais pas le retirer parce que là, on a l'impression
au début,
que
il doit la pousser.
On se le fait gratuitement, du moins que je me le fais gratuitement, alors que ce n'est pas le moment, il faut en parler en bien.
Non, mais après, on peut aussi faire des comparaisons sans que ce soit gravissime.
Pour te dire que, franchement, quand tu revois, t'imagines les buts, juste les buts d'hier d'Olivier.
Bah, le but de la tête, quand même.
Mais tu plaisantes ou quoi ?
Faut le mettre, quand même.
Ouais, d'accord. Ok, bon. Alors, s'il est difficile, le but d'hier, de la tête, franchement, j'ai joué avec des grands joueurs de tête. Olivier en est un. Je pense pas que ça soit le but le plus difficile qu'il ait eu à marquer. Le premier but, comment il le marque ?
Il est de la meilleure.
Une offrande de Rabiot, il a juste à pousser la balle. Donc, je suis désolé.
Du pied droit.
Mais
il a les deux pieds.
Thierry en a certainement marqué des buts comme ça. Mais le souvenir qu'on a, c'est quand même des buts un peu plus difficiles à marquer.
Du côté gauche et en roulant son ballon.
Pour toi, il n'y a pas photo. Pour Jean-Michel qui ne veut pas se mouiller, on ne peut pas comparer les époques.
Il ne se mouille pas, mais de toute façon.
Pascal.
Vas-y, Pascal.
Moi aussi, personnellement, tu ne peux pas comparer des joueurs et Thierry Henry. C'était vraiment quelqu'un. Même en finition, en possession de balle. Bon, Giroud, j'appelle plus une tour de contrôle. Et comme hier, voilà, qu'il y a deux hommes sur les côtés qui, s'ils continuent comme ça, tous les débordements, tous les centres, tu vas le trouver. À la fin, tu vas marquer. Mais Thierry Henry, c'était un autre joueur. Il était plus en finition, en construction que Giroud. Ben, c'est une tour de contrôle. Voilà. Alors, en comparaison que je fais, vite fait, hein. Parce que c'est comme un gardien de but, on ne peut pas les comparer. Hein, on va dire il est fort des pieds, l'autre il est fort des mains, l'autre
on peut les comparer et ça on va tous être d'accord pour dire que Thierry était beaucoup plus complet qu'Olivier.
On va continuer le débat avec Jean-Yves. qui a fait le 32-16.
Oui, Jean-Yves.
Non, c'est dans un instant, Jérôme. Toujours 4-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. Giroud est-il l'égal d'Henri sur tous les plans désormais? Le débat va se poursuivre au 32-16. À tout de suite.
Attends deux minutes, Jean-Yves.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h18 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, spécial Coupe du Monde avec Jean-Louis Tour en direct de Doha, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet et Pascal Olmeta ce soir. On continue à parler, à faire un fil rouge avec Flo Germain sur ce match Espagne-Costa Rica. Mais bon, pour rien de vous cacher, le match est déjà plié. Il y a 4-0, donc on interviendra, on ira sur le match si il y a encore des buts. Et je pense qu'il va y en avoir quelques-uns.
Exactement. Avant de reprendre sur l'équipe de France, avant de parler de Neymar, avant de parler également de l'info de la journée hors Coupe du Monde, c'est le départ du Parc des Princes qui est envisagé par le PSG. On en parlera tout à l'heure également. On fait un point sur Espagne-Costa Rica, Florent Germain.
Bientôt l'heure de jeu ici au stade Altumama, 4-0 pour donc l'Espagne. Dani Olmo, Asensio, doublé de Ferran Torres. Ferran Torres qui a cédé sa place. Alvaro Morata est entré, il s'est positionné en pointe et donc Asensio côté droit. Et Pedri a cédé sa place au joueur du Paris Saint-Germain, Carlos Soler.
Très bien, merci Flo. Tu as la parole bien sûr hein, en cas de but désormais. Dès qu'il y a un but, tu interviens bien sûr. On va voir si Pascal a raison avec son 6-0. Giroud est-il désormais l'égal d'Henri et pas qu'en statistique? Jean-Yves nous rejoint au 32-16. Salut Jean-Yves.
Bonsoir les gars.
Salut Jean-Yves.
C'est quoi déjà le débat comme par exemple entre Germini et Jérôme, c'est ça?
Oui, c'est ça. Qui a mis le plus de coups francs, ouais.
C'est un peu ça.
Non, mais bah, pour revenir au débat, bon, moi, en fait, l'idée, en fait, c'est vrai que les joueurs ne sont pas les mêmes, et puis l'époque, bien sûr, nous également. Bon, après, en termes de jeu, bon, Thierry Henry, c'est un phénomène par rapport à Giroud, on est bien d'accord. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat. Je serais plus dans l'idée de comparer peut-être Thierry Henry avec Mbappé à l'heure actuelle, qui, voilà, hein, pour voir dans les courses, tout ça, qui était le plus fort des deux. Ça pourrait être intéressant comme débat, hein. Mais, c'est vrai qu'avec Giroud, il n'y a pas photo. Après, en termes d'efficacité, bah, hier, il y a deux occasions, il nous faut, hein. Même trois, aller le retourner, bon, s'il est cadré, il est dedans, bon, ça fait trois même. Bon, mais, voilà, les buts, il les met, quoi. Je veux dire, on les a pas arrivés, les buts. Ils ont comptablement, ouais. Ça y est.
Il est totalement dans son rôle.
Voilà. Donc après, et puis moi, je trouve, en plus, moi, ce que je trouve, alors, un truc qui m'énerve, vraiment, c'est que je trouve qu'on y fait des faux procès à Giroud. C'est le joueur, c'est le mal aimé, quoi. En gros, moi, y compris autour de moi, hein, chaque fois qu'il y a des sélections qui tombent, dès qu'on voit Giroud, il y en a toujours un pour dire, ah, mais Giroud, ah, mais là, je qu'il a, ouais, mais Giroud, mais, ah, putain, mais, ben Giroud, en attendant, c'est efficace. Voilà.
Oui, mais Jean-Yves, s'il y a des interrogations comme ça, ici, en effet, même nous, hein, ça nous sépare un petit peu, hein, les consultants sur les plateaux, il y en a qui sont pour Giroud, d'autres un petit peu contre Giroud. C'est même pas être contre Giroud, parce que moi, je fais partie de ceux-là et j'assume. C'est que, obligatoirement, il laisse ses qualités... te laisse un peu perplexe par moment, tu vois, devenant à sa position, son style de jeu par rapport à d'autres attaquants qu'on a pu avoir ou qui a aujourd'hui que Didier Deschamps a entre les mains.
Mais
juste une chose. Est-ce que tu préfères, alors on va faire un tu préfères, je sais pas, moi au fossé, on fait souvent des tu préfères chez moi. Est-ce que tu préfères avoir un joueur qui va te dribbler, qui va te faire rêver et tout, et qui est pas très efficace, et un qui a quatre pattes et un canard, mais qui te met des buts.
Ouais.
Alors, c'est peut-être pas
alors,
bon à voir.
Alors, tu préfères quoi?
Je suis d'accord,
non,
attention.
Non, mais là,
Jean-Yves... Il faut de tout, puisque oui. Tu es de Marseille, Jean-Yves.
Ah ben, il faut de
déjà,
tout.
Oui. Jean-Yves, déjà, je pense que... Et il a été ballon d'or. On peut comparer, plus dans le rôle d'avant-centre, un Jean-Pierre Papin et un Giroud, déjà.
Oui.
Parce
oui.
que... Eux, c'est la surface de réparation. JPP, quand il sortait de sa surface de réparation et qu'il voulait jouer avec Chris Waddle ou d'autres, c'était compliqué pour lui.
Oui. Parce que Giroud, c'est le finisseur.
Voilà. Et quand tu dis qu'est-ce que tu préfères, ben, toi, tu as été servi à Marseille. Et dans l'équipe dont je te parle, tu avais un Chris Waddle qui faisait soulever les tribunes quand il faisait ces bêtises là, ces passements de jambes, et tu avais un Jean-Pierre Papin quand il faisait les papinades. Il faut de tout. Et je trouve
ah oui,
que...
il faut de tout. Oui. C'est un équilibre. En fait, c'est une question d'équilibre dans une équipe. En fait.
Et je trouve que à la limite dans une équipe, même si vous vous rappelez quand même que les associations Thierry Henry, David Trezeguet, dans les 4-4-2 étaient très compliquées. Vous vous rappelez pas?
Oui, ça fonctionnait pas. Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous étiez jeune.
Non, non, celui-là, on s'en souvient.
Et ça marchait pas. Et ça ne marchait pas. Ils avaient, à tel point que souvent Thierry Henry était préféré à David Trezeguet, qui était pourtant un buteur du style plutôt Giroud.
Parce que les gars ont fait la fine bouche, on a la chance d'avoir.
Bien sûr, t'as raison, Pascal, le malheur, voilà,
Karim s'est blessé, bon, il est reparti.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
On a la chance d'avoir un Giroud. Quand tout à l'heure, sais plus son prénom, pour l'Allemagne, il a dit qu'ils avaient
pas d'attaquant. Tout à l'heure.
Regarde Jean-Yves, et même pour te poser la question à toi Jean-Louis qui nous a fait ce débat.
Oui. Excellent débat.
Oui, oui, non mais tu comparais à Thierry Henry. Pour moi, tu peux pas les comparer déjà parce que c'est pas du tout le même style de jeu et le même positionnement. Oui. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, et Jean-Michel, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est quid, qu'est-ce qu'on fait entre Trezeguet et Giroud, par exemple. Lequel, pour vous, a plus marqué l'histoire de l'équipe de France ? Trezeguet ou Giroud ? Alors Giroud, si tu regardes le nombre de buts, pas de problème. Mais après, les qualités, et David en a mis un petit peu moins de buts, on est d'accord ?
Moins, bien sûr, oui. Mais avec un bon ratio,
Trezeguet. Mais le ratio, il est énorme. Et moi, j'ai eu la chance, alors pas de jouer avec Olivier Giroud, mais de jouer avec David Trezeguet.
34 buts en 71 matchs.
De m'entraîner avec David Trezeguet. Je peux te dire que il était clinique devant le but. Mais clinique. Tout, de la tête, des deux pieds, tout ça, c'était incroyable. Dans n'importe quelle situation, rebond, pas rebond, il s'adaptait toujours à la bonne surface de pied. Je suis pas sûr, aujourd'hui, très honnêtement, qu'Olivier Giroud soit capable de faire ce que David faisait à l'époque. Et pourtant, c'est deux buteurs. Des buteurs, des joueurs qui sont un peu statiques. Ben pour moi, tu vois, et c'est encore une fois, je mets Trezeguet au-dessus de Giroud.
Le ratio n'est pas si éloigné, puisque Giroud, c'est 51 en 115 sélections.
Oui, mais d'accord, mais bon... Non, mais
la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est pas tellement d'essayer de faire des comparaisons, parce qu'on trouvera toujours meilleur, c'est sûr, même dans les finisseurs, il y a des styles différents. Alors c'est pour dire que c'est compliqué. C'est mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'aujourd'hui, alors la question, est-ce qu'on peut se passer de Giroud aujourd'hui? C'est la question que je vois avec tous les
blessés. Oui, tu peux
avec tous les
aujourd'hui, avec les blessés.
Bah, moi, je pars du principe que le style de jeu qu'il a, tu peux t'en passer. Et tu verras.
Non, mais là, par exemple, tu dis même à la Coupe du Monde, tu mets Marcus Thuram, mais c'est pareil.
Moi, regarde, Jean-Yves, j'attends de voir. Et j'espère qu'il va me faire mentir. Mais j'attends de voir quand l'équipe de France sera un petit peu en difficulté, parce qu'avec le milieu de terrain qu'on a, je suis pas sûr qu'on soit capable de faire un peu la possession de balle de l'Espagne, où c'est leur marque de fabrique. Donc, quand on aura moins de possession de balle, que le bloc sera plus bas, parce que c'est ce que Didier Deschamps met en place aussi, hein, il faut pas se leurrer, qu'on fera des attaques rapides.
Ouais.
Plus.
Ouais. Bah, ce sera le beaucoup relais, plus. Justement, des attaques rapides. Comment dire?
Moi, je pense qu'il va disparaître. Il va disparaître et que là, dans ces cas-là, t'auras que deux solutions si Dembélé sur le terrain. La vitesse de Dembélé et la vitesse de Kylian Mbappé.
Pas mal quand même.
Voilà. Non, mais d'accord. Mais ça veut dire que automatiquement tu pourras te passer de Giroud. Parce que si
donc
Giroud.
On est aussi bon avec un Marcus Thuram ou.
Non, parce que. Si Giroud, on l'utilise en point d'appui, pour les déviations, il a beaucoup, beaucoup de déchets. Moi, je trouve qu'il y a même trop de déchets. Et c'est pour ça que je suis assez critique sur lui.
Bon.
Après, attention, si on joue des équipes comme contre l'Australie, où on a l'occasion d'être très haut, que lui reste statique dans l'axe, bien sûr qu'un ballon de la tête. Ah, attention, un ballon de la tête dans la surface, Olivier Giroud, il a une longueur d'avance sur tous les autres.
Jean-Yves, merci. C'est incroyable l'effet Florent Germain. Tous les supporters de l'OM appellent, même en pleine Coupe du Monde. Florent Germain, il est à Doha pour Espagne-Costa Rica.
Ouais, 4-0 pour les Espagnols. Les buteurs, on les rappelle, doublés de Ferran Torres, Asensio et Dani Olmo qui lui avaient ouvert le score. Il y a eu deux changements de nouveau du côté de l'Espagne avec Coque qui a remplacé Sergi Busquets et Alejandro Balde, le joueur du FC Barcelone. Ouh, le gros tacle, je sais pas si ça va loin un rouge là. Carton jaune, il s'en sort bien. Le joueur de Cognaspor,
Francisco Calvo,
tacle au milieu de terrain totalement inutile à 40 mètres de la cage de Keylor Navas. Honnêtement, c'était sur qui? C'était sur Carlos Soler. 4-0 dont je disais, et Balde appelé de dernière minute puisque José Gaya s'est fait une toute petite entorse à la cheville. C'était d'ailleurs la polémique des derniers jours en Espagne, parce qu'on estime que il aurait très bien pu le garder, Luis Enrique, et il a préféré appeler donc Alejandro Balde qui est entré en jeu.
Il n'y a pas eu de rouge, on est d'accord, Jérôme, depuis le début de la Coupe du Monde.
Non, carton jaune.
Non, mais pas là, en général, Flo, sur le depuis le début de la compète.
Non.
Bon, eh ben, ce sera pas pour cette fois, parce qu'il y a eu jaune.
Vous avez vu la tête de l'arbitre, on dirait Pinocchio.
Pinocchio ? Ah bon ?
Ouais. Non, j'ai
pas fait attention.
Kinamazo Nakatsu, putain, c'est... Oh.
Mais ah oui, Pinocchio après avoir menti. J'ai l'impression.
Ouais, ouais, voilà.
D'accord.
Oui, oui, oui,
allez.
Oui.
Dans... Merci Pascal pour tes interventions.
Gepetto est passé par là. Allez.
Sans comme.
Allez, 4-0 donc pour l'Espagne face au Costa Rica. Dans une seconde, va-t-on voir le grand Neymar dès demain 32-16 pour participer au débat tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, spéciale Coupe du Monde. On est avec Jean-Louis Tour en direct de Doha. On est avec Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta et puis Flo Germain sur le match Espagne-Costa Rica. 70e minute de jeu, 4-0 pour les Espagnols. Et oui, 4-0. C'est une belle fessée.
Une belle fessée, exactement.
Pour le Costa Rica.
On retrouvera Flo dans une seconde, sauf si ça bouge d'ici là. Mais place au Brésil qui entre en lice demain, 20h. On en reparlera tout au long de la journée, bien sûr. Samba autour des Brésiliens et peut-être autour de Neymar. Ça va être la question. Est-ce qu'on va voir, selon vous, dès demain, le grand Neymar ? Timothée Mémon est avec nous. Salut Timothée.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Tu as pu assister aux conférences de presse de veille de match. Alors, est-ce qu'il a été question beaucoup de Neymar ?
Il a été question en partie de Neymar, mais il n'a pas focalisé l'attention très clairement de cette conférence de presse. Plusieurs choses ont été abordées. Avant de ça, je voudrais vous planter le décor. Hier, on a vu avec l'Argentine une queue incroyable que nous décrivait Florent Germain, justement, pour accéder à la salle de presse. Là, très sincèrement, c'était plus en retenue. Il y avait un petit peu de monde, la salle était pleine, pas de problème, mais il n'y avait pas non plus la cohue. C'est d'ailleurs un petit peu la sensation générale qui transpire autour de cette sélection du Brésil, une certaine forme de calme et de sérénité pour le moment. Il a plus été question de la pression, Jean-Louis, sur cette formation du Brésil qui n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 20 ans. Et quand on s'appelle le Brésil, 20 ans, c'est beaucoup trop. Alors évidemment, la question a été posée à Tite, on y reviendra tout à l'heure, mais les journalistes ont également poser la question à Thiago Silva qui était en conférence de presse sur son émotivité. Vous le savez, c'est un sujet qui revient avec récurrence pour Thiago Silva. Écoutez la réponse du capitaine du Brésil.
Falar que assim, enquanto eu não me arrebentar todo, a gente não aprende. Por vezes a gente tem que.
Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis mieux préparé. Parfois, on apprend dans la douleur. On doit apprendre de nos expériences. Aujourd'hui, je suis mieux préparé. Je suis plus calme dans ma tête. Je suis plus à l'aise aussi. J'ai la confiance de mes coéquipiers et je fais confiance à mes coéquipiers. Cela m'aide beaucoup. Je suis la meilleure version de Thiago Silva. Je suis dans la forme de ma carrière et j'ai aussi d'autres motifs de satisfaction dans ma vie, comme une magnifique famille qui est derrière moi. Voilà un Thiago Silva donc rasséréné, si l'on en croit le joueur qui s'est présenté en conférence de presse. Et puis on a également parlé à Tite de la pression que cela représentait de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde depuis 20 ans. Il a répondu très clairement: vous pouvez m'incriminer sur les 4 dernières années, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de 20 ans sans Coupe du Monde. Il n'a pas éludé le sujet. Et puis il y a une question que j'ai trouvée intéressante de vous relater et de vous faire entendre la réponse. C'est une question sur l'attitude des Brésiliens, sur la façon d'être des Brésiliens. Un journaliste a demandé: on sait que la danse est très importante dans votre groupe, on vous a vu sur des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux en train de danser les uns les autres, est-ce que demain au match il y aura de la danse? Écoutez la réponse plutôt amusante de Tite.
Naturalidade, Kiko. Respeito. Respeito à ma culture, respeito à un jeito de ser.
Avec naturel et avec beaucoup de respect pour les autres cultures, mais aussi pour la nôtre. Eh bien, nous avons besoin de danser. C'est très particulier chez nous. Je sais que c'est parfois difficile à comprendre, mais c'est notre façon à nous de vibrer. C'est notre façon à nous de faire passer notre émotion. Danser, c'est une façon d'être nous-mêmes. Alors oui, c'est certain, probablement que demain, il va y avoir de la concentration, mais il va aussi y avoir de la danse, parce qu'on se doit de danser tout en respectant nos adversaires, mais on se doit de danser parce qu'on se doit de respecter ce que nous sommes. Voilà l'explication de Tite sur cette spécificité brésilienne. Et pour ce qui est de Neymar, oh,
Gavi,
enfin.
Gavi, de la part du joueur du FC Barcelone, la reprise de volée extérieur pied droit, et ça arrive après un rush. Alors lui, Alejandro Balde, attention, Mobilette, hein. Mobilette, ah oui. Il est lancé inarrêtable. Alvaro Morata qui récupère le ballon, le centre à l'extérieur de la surface, et la Gavi, c'est du pur régal, c'est du pur Barça, c'est du pur talent. Frappe extérieur pied droit, poteau rentrant, 5-0 pour l'Espagne.
Magnifique. Encore effectivement.
Mais c'est pas fini, les gars.
Attention, peut-être quand même au hors-jeu de Morata. Ah, attention.
Non.
Ah oui. Attention au hors-jeu semi-automatique. Il est validé, Flo, c'est sûr ? Attention.
Non, mais je crois pas qu'il y ait position d'hors-jeu. Sur le ralenti qu'on a vu.
Non, non. Ouais.
Et
je vous fais confiance.
Honnêtement, refuser ce but, ce serait scandaleux pour la compétition.
Je crois pas qu'il y ait
position d'hors-jeu. Ce serait une insulte au football de refuser ce but.
Au moins.
Il faut une intervention. En haut lieu, qu'il est validé. Il est validé.
Ah, très bien.
Pas de soucis, pas d'enjeu. Quel régal, quel bonbon de la part de Gavi.
Ouf. Ah, ouais. Vous avez vu la pointe du pied tendue vers le sol. Comme c'est beau, Gavi, comme c'est beau.
Ah, j'ai l'impression de voir un stage larqué depuis 75 minutes là, avec l'Espagne. C'est incroyable. La précision technique, les passes, les petits jeux, des entraînements. Ah, c'est...
Les gars, pour faire la différence, stage larqué, c'est que ça coûte un bras. Hein. Écoute, là, après il fait payer les autographes et tes parents ils mangeaient pas pendant deux mois.
C'est les meilleurs au meilleur prix.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais les autographes, tu n'étais pas obligé quand même.
Bon, mais ouais, enfin, c'était pour les fins de mois, ça.
Ouais.
Alors, attends, rassure-moi d'un truc. Personne ne fait payer ses autographes.
Ah bah, Jean-Michel à l'époque.
Non, mais pour de vrai. Il y a des joueurs qui payent leurs
autographes. Tu plaisantes ou quoi?
Ah, si, c'est Mickaël Madar, je crois qu'il faisait ça sur les étages aussi.
Vraiment.
Ouais,
non.
Mickaël
Madar. Mais calme,
bon, après, quand t'as des fins de mois un peu difficiles, tu prends où tu peux.
Bon, 5-0 pour. Qui a fait les stages larqués, Mickaël Madar.
Tu lui as donné des idées parce qu'après, il faisait des stages avec les gamins.
Un demi-tarif. On était sur le Brésil.
Et ça n'a pas si bien marché que les tiens, je crois.
Timothée, on a fini sur les temps.
Je conclue rapidement sur Neymar. Thiago Silva, qui le connaît très bien, a été interrogé sur la situation de Neymar, sur le fait qu'il soit fit pour cette rencontre. Et effectivement, Thiago Silva a dit des choses un petit peu lourdes de sens, entre guillemets. Il a dit oui, il est en très bonne forme physique, mais on a aussi un Neymar qui a grandi et qui est peut-être plus prêt à partager les responsabilités et à vouloir réussir collectivement.
D'accord, merci Timothée. Juste donc sur les dents, c'est un truc culturel, c'est pas de l'arrogance, vous êtes d'accord avec Tite ?
Magnifique, j'espère qu'on en verra beaucoup demain.
Je trouve ça magnifique, bien sûr. Jean-Michel,
et je danserai avec eux.
Rien que pour ça, Jérôme n'aurait pas pu jouer avec le Brésil, pour les danses.
Pour les danses ? Ah, c'est vrai que j'aurais été un petit peu mal barré, là, je reconnais.
Moi qui dansais beaucoup, les gars, je vous rassure.
Oui.
C'est un régal,
danser beaucoup. Me dis pas que c'était danse là que tu faisais derrière les buts quand tu marquais un but. Franchement, t'étais arrêté,
stars,
tu bougeais juste.
T'as fait les animaux de la ferme, toi.
Vous avez pas vu mon clip quand je danse, les gars. Les animaux de la ferme.
Ouais, parce que bon,
il y avait des animaux dedans, mais bon.
Les animaux, c'était Pascal, les animaux.
C'était les animaux qui me gardaient, les gars. Oh, mais décollez pas, là, vous partez en vrille. Oh.
Oui.
La ferme célébrité, c'est vrai.
Il y avait célébrité après, quand même.
Ouais,
mais que notre
tout le monde n'est pas des célébrités,
les gars.
Ouais, notre Moussiouf, on l'embrasse de là-haut.
Ouais. Et aussi une petite pensée, ça fait 40 ans qu'il a disparu, c'est notre ami Claude Pape.
Claude Pape, grand numéro 10.
Ouais, début janvier, il y a un livre qui sort, Claude Pape, l'icône. Voilà, pensée pour mon ami. J'ai joué avec lui, c'était un grand monsieur.
Bon, puisque vous n'avez pas envie de parler du Brésil,
on l'embrasse aussi.
Le casting de la ferme célébrité. Ouais. Il y avait donc Pascal Olmeta, Evangeli, Elodie Gossuin, Vincent McDoum, Daniel Gilbert. pour les célébrités.
Daniel Gilbert.
Voilà. Là, je crois que j'ai donné quand même les joueurs les plus connus.
Daniel Gilbert, on l'embrasse aussi de là-haut.
Bien sûr, donc Mousse Diouf, on en a parlé.
Comment Daniel Gilbert est mort, Daniel Gilbert.
Qu'est-ce que tu dis?
Pardon. Pardon.
Non, mais pour de vrai, tu croyais.
Non, mais
elle n'est pas morte, la pauvre Daniel.
Elle a 61 ans.
Ah ben oui, non, elle connaît pas.
Plus, 91 ans.
Plus, ouais. Ah non, c'était à l'époque, elle avait 61 ans. À l'époque, ouais,
donc ça fait 30 ans. Donc
Alors il y avait également Maxime, l'humoriste, Ticia, puis, l'animatrice télé.
Et puis il y avait le copain,
Massimo
le
Gardia,
de la Jet Set. L'ami des vedettes, l'ami des vedettes. Mais il y avait
Mia Fry. Pour la danse, il y avait Mia Fry. Voilà. Ouais. Et alors là, bon, Sébastien Moura, qui était un mannequin. Hilario Calvo, je connais pas.
Ah oui.
Céline Balitran. Top modèle.
Ouais, très joli.
Sympa.
Oui.
Et Eva Kovalevskaya. Ah oui, voilà, c'est intéressant. Hein.
Ouais,
t'as vu les célébrités.
C'était génial.
Il
ouais,
y avait Pablo.
Et t'avais pris un beau chèque, Pascal, quand même.
J'avais Pablo.
J'avais pris, personnellement, non, on avait des défraiements, mais autrement, j'avais gagné, oui, 170 000 euros pour l'association.
Pour l'association, bien sûr.
William Seberen, oui, une gamine corse, qui est toujours avec nous dans notre assos. Je lui fais des gros, gros bisous. Voilà. Ainsi qu'à toute sa famille.
On l'embrasse, on l'embrasse par contre.
Tu y retournerais aujourd'hui si l'émission t'appelle?
Pardon?
Si l'émission t'appelle, tu y retournerais?
Pour l'argent, tu y retournerais quand même.
Tout dépend des causes, les gars. Après, tu vas pas retourner pour faire le cake et puis il n'y a rien à vendre. Après, voilà.
Mais c'était une bonne expérience quand même?
Très bonne, oui. J'étais parti pour, j'avais dit à ma femme et mes enfants, ma fille, j'avais dit je pars. Bon, pour une semaine, parce que les gens me connaissaient dans le football et non pas dans la vie.
Ouais.
Ah ben, punaise, je me suis farci 10 semaines. Oh, ah, bah.
Ah ouais, 10 semaines.
Ah ouais.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une émission donc, de 2004 où on mettait des célébrités à la ferme et ils devaient s'occuper des animaux, s'occuper des vaches, etc. Donc voilà, c'était les télé-réalités de l'époque.
Il y avait Vincent McDoom, ah oui, c'est ça.
Oui, exactement. Bon, c'était le Brésil, on en parlera demain, hein, on va faire ça.
Ah bon?
Ouais,
on parlait de la ferme, t'as raison.
Non, mais c'est vous qui vous êtes parti sur plein de trucs là, depuis tout à l'heure.
C'est plus intéressant, non?
Oui. Espagne-Costa Rica, Flo.
On en est où?
Ouais, ben 5-0, on n'était pas loin du 6ème qu'attend Pascal, justement, lui qui a parié sur un 6-0 tout à l'heure à la mi-temps. Mais il y avait un hors-jeu pour Alvaro Morata qui frappe croisée, avait cadré sa frappe, mais il y avait Keylor Navas aussi pour une fois, parce que c'est vrai que Keylor Navas, bon, il n'a pas été aidé par une très faible équipe du Costa Rica, mais sur un ou deux coups, il n'a pas été super inspiré, le gardien remplaçant du PSG. Dani Olmo pour les buteurs, doublé de Ferran Torres, Asensio et le petit bonbon El Caramelito de Gavi, reprise extérieure, pied droit, poteau rentrant. Franchement, c'est l'un des buts de ce début de mondial. 5-0 pour l'Espagne à 9 minutes de la fin de la rencontre.
On revient dans une seconde pour la fin du match et l'info. Ah oui, bien sûr. Et l'info de la journée, le Parc des Princes peut être vendu. On vous explique tout ça avec les infos RMC Sport.
Crois pas.
Et Jérôme, tu nous dis ce que t'en penses dans une seconde. A tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h43 sur RMC, sur Paris, 20h43 à Doha, avec Jean-Louis Tour en direct de Doha. Bien sûr, on continue à débriefer dans Rotten sans flamme, spécial Coupe du Monde, le match, du moins pas débriefer, de suivre la fin du match Espagne-Costa Rica, toujours 5-0 pour les Espagnols, oui, 5-0 à 7-8 minutes de la fin du match. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, et on continue à parler de ce match, et puis surtout à parler aussi de l'actu de la Coupe du Monde, Jean-Louis.
Exactement, on va parler du Parc des Prince, le PSG pourrait vouloir le vendre.
Non.
Non, mais on peut-être selon toi, mais on va en parler, on va vous donner les infos. Espagne-Costa Rica avant cela, Florent Germain.
6 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. En tout cas, 5-0 pour l'Espagne, la manita comme on dit là-bas, les 5 doigts de la main pour les 5 buts notamment celui de Gavi qui passe en boucle sur les écrans géants. 40 000 personnes au stade Altumama, il y en a beaucoup qui sont en train de partir et d'ailleurs c'est pas franchement une vraie affluence, je pense. Ce sera peut-être un des thèmes de cette Coupe du Monde. J'ai l'impression que la FIFA gonfle un peu les affluences parce qu'il n'y a jamais 40 000 ce soir. Par rapport à ce qu'on voit, il y avait beaucoup de sièges vides, beaucoup trop malheureusement, pour un très beau match de l'Espagne qui s'est baladé 5-0 à 5 grosses minutes de la fin du temps réglementaire.
On t'entend Jean-Michel, hein, au loin, sur la
FIFA. Oui, j'espère qu'on m'entend, la FIFA mentirait, mais non, c'est pas possible.
Non, mais il y a une histoire de capacité entre ce qui est annoncé, ce qui. Enfin bon, bref, là, il y a en plus, surtout Jean-Michel, il y a une justification assez
abracadabrantesque
à chaque fois pour justifier l'injustifiable. 5-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. Le PSG est donc le Parc des Princes. Donc alors effectivement, on sort un peu de la Coupe du Monde, quoique, puisqu'on va parler de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, le président qatari du PSG, qui donc a évoqué les perspectives de développement pour le PSG. Il a confirmé donc la cession de 10 à 15% du capital du club, qui était une possibilité pour faire entrer un actionnaire minoritaire, ce qui est une première depuis que les dirigeants qataris sont au club. Et puis il y a la question du stade. Donc Nasser Al-Khelaifi aimerait développer le stade, puisqu'il considère que le PSG est à la traîne par rapport aux autres grands pays là-dessus, avec un stade de 48 000 places, là où d'autres ont en moyenne, enfin au moins 60 000, et puis ça peut monter à bien plus haut, hein, 90 000 au Camp Nou, par exemple. Ouais. Mmh. Sauf que, pour y parvenir, eh ben, y a deux options. Soit un achat du Parc des Princes, le PSG n'est pas propriétaire, c'est toujours la ville qui est propriétaire du stade. La ville de Paris, ça c'est les infos RMC Sport, demanderait 350 millions d'euros pour l'achat du Parc des Princes. Et ensuite, il faudrait 500 millions d'euros pour faire les travaux pour et rénover, le rénover. Ouais. Donc là, on parle d'un investissement à 850 millions. On a dit c'est une blague côté Paris, côté PSG. Donc les autres options, ce serait donc de quitter le Parc des Princes. Là, il y a deux possibilités sur la table. Soit racheter le Stade de France, puisque donc le contrat avec le consortium du Stade de France se termine en 2025. Là, on parlerait d'un investissement à 600 millions d'euros et peu de rénovations à faire pour le Stade de France. Soit construire de A à Z un stade en Île-de-France. Est-ce que Jérôme, selon toi, c'est crédible ou c'est juste un argument de négociation ?
Moi, je pars du principe, d'après mes informations, c'est très tendu aujourd'hui avec la mairie. Tu viens de le dire, de toute façon, dû à plein de choses et pas que lié à l'achat du stade. Donc, c'est un coup de pression aussi. De toute façon, il faut reconnaître une chose, c'est que la maire de Paris, elle fait pas que des bonnes choses pour la ville de Paris, hein, à tout point de vue, et que dernièrement encore, les déclarations qu'elle a pu avoir avec cette Coupe du Monde au Qatar étaient vraiment déplacées par rapport aux propriétaires du Paris Saint-Germain. Elle s'en est bien servie il y a quelques mois et quelques années. Retourner sa veste comme ça, je pense que c'est retour du bâton aujourd'hui. Que Nasser a en effet parlé de ça parce que c'est une petite pression qu'il met à la municipalité. Mais j'ai bien peur qu'on arrive à un point de non-retour au bout d'un moment. Donc c'est pas à exclure si ça s'améliore pas. Et quand on connaît Anne Hidalgo un petit peu et qu'on voit ce qu'elle fait et ce qu'elle a dans la tête, je me demande ce qu'elle cherche vraiment. Donc d'un moment ça peut venir, et ce serait malheureux pour le Paris Saint-Germain quand même de perdre le Parc des Princes. Là ça serait un coup très dur, mais je me dis que pour le bien des Parisiens et pour le bien du Paris Saint-Germain, ils vont reprendre une conscience, la mairie et Anne Hidalgo, que c'est important que le PSG reste au Parc des Princes. Voilà, mais j'ai pas l'impression.
Tu n'arrives pas à imaginer le PSG ailleurs qu'au Parc.
Ah non, vraiment. Alors après, en plus, ils ont, et je sais parce que j'en ai souvent parlé avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, et pas que Nasser, bien sûr, mais d'autres personnes aussi. Ils ont des bonnes idées sur la rénovation pour l'agrandir.
Ouais.
Il y a une possibilité de le faire et de le monter à 60 000 places. Alors il y a des gros travaux, mais abaisser un peu le stade. Et puis surtout au-dessus.
Abaisser le stade, c'est-à-dire c'est quoi? Creuser
un petit peu le stade pour gagner gagner à peu près 5000 places.
C'est
possible. Bah, je te le dis parce qu'on m'en a parlé. Le périph, il est ça, c'est aussi on a l'impression qu'il passe en dessous, il passe sur au niveau d'un poteau de corner seulement. Donc côté Auteuil, tu vois, pour ceux qui connaissent le Parc des Princes. Et puis après, il y a surtout casser le haut, tu vois, ce qui représente l'architecture du Parc des Princes, pour agrandir au-dessus, gagner une rangée encore, et là tu gagnes en effet une dizaine de
5-0, 6-0 désormais, messieurs.
Eh oui.
6-0, Carlos Soler, le joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, vous parlez du Parc des Princes et ça réveille, ça interpelle un joueur du PSG. 6-0, il y aura peut-être un check vidéo sur une position de hors-jeu, quoique c'est pas sûr. Centre côté droit de Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao, qui fait une bonne entrée, beaucoup de vitesse. Le centre, c'était pour Morata, c'est repoussé dans les pieds de oui, Carlos Soler. Pied droit, bout portant.
Oui.
Imparable. 6-0 pour l'Espagne.
Et oui, Pascal, il a
merci
fait
le
Pascal. 6-0.
Pascal, merci.
J'ai l'impression en tout cas, que ça fait bizarre d'entendre Florent Germain s'enflammer sur des buts de joueurs du PSG.
Ah ouais, ça fait
rare. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme?
C'est beau, le thème de la Coupe du Monde, parce que je suis Messi, je commande des buts de Carlos Soler.
Ouais, c'est beau. Ouais. Après, il fait face de Messi.
Il prépare peut-être son rapatriement à Paris.
Oui, puis bon, après, attends. Ça, c'est bien, ça montre son. Vraiment, t'es un journaliste hors pair. T'es un des meilleurs au monde.
Il a tellement
de toute façon,
talent,
tu le dis,
il s'adapte.
Tu le dis, donc
talent,
t'adaptes. Et puis, il était capable de reconnaître que les joueurs du PSG, tu les envies un petit peu, du moins. Voilà, donc ça c'est bien. Bravo.
Objectivité, maître mot, objectivité, mon cher Jérôme. Objectivité.
Bravo, là, on est fiers de toi.
Alors,
voilà, bravo, Fraté.
Sur la vente possible du Parc des Princes.
Voilà.
Jérôme, t'avais fini sur la vente du Parc des Princes.
J'ai fini et j'ai qu'une envie, c'est que.
Jérôme.
Que Anne Hidalgo, elle prenne sa retraite, tu vois.
Mais d'accord.
Voilà. Bon. Comme ça s'améliorera derrière. Mais je suis à fond. Je suis à fond. Parce que je sais, je connais, et je finirai là-dessus. Je connais, parce que à travers cette phrase-là, on va encore dire oui, les gens, ils s'en foutent de l'histoire du Paris Saint-Germain, parce que les supporters, c'est ce qu'ils pensent. Et moi aussi, c'est ce que je pense.
Après, ils attaquaient au logo.
Mais,
la musique d'entrée à un moment.
Mais oui,
les
oui,
couleurs,
mais ils sont revenus en arrière quand même. Il faut reconnaître ça aussi. Donc, après, c'est juste qu'ils soient aussi bien entourés avec des personnes qui aiment ce club, qui sont compétentes pour prendre des bonnes décisions. Et je reste persuadé que dans l'esprit de Nasser, par exemple, parce que c'est lui qui a parlé, il a qu'une envie, c'est de rester au Parc des Princes. Mmh. Il sait qu'il y a l'âme du club, il est là. Il est dans ce stade est magnifique.
Pascal, tu voulais ajouter un mot?
Mais oui, mais ça fait des années qu'on a vendu les couleurs de chaque club. Ça fait des années qu'on vend le patrimoine français. Ça fait des années que tout change. Si demain, que ça soit la maire de Paris ou qui que ce soit, si ça peut apporter un plus, pourquoi pas. C'est vrai que, comme tu dis, Jérôme, c'est l'âme des Parisiens.
Siete,
non.
7-0 pour l'Espagne, signé du numéro 7, Alvaro Morata. J'étais en train de me dire, pour que la soirée soit parfaite, il manque un numéro 7, c'est le buteur Alvaro Morata qui faisait une entrée un petit peu plus compliquée par rapport à ses partenaires. Et bien là, il est servi, frappe pied gauche, petit filet, 7-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. Alors oui, le Costa Rica, c'est très très faible, mais honnêtement, l'Espagne, attention, ça peut être un client sur cette Coupe du Monde. Ils sont impressionnants techniquement dans les enchaînements et ils sont efficaces. 7-0 pour l'Espagne.
Ah oui, le 1-2, c'est un 1-2 de laboratoire là. Et dans un tout petit espace, c'est la perfection.
C'est souvent des 1-2 dans un laboratoire.
Ouais, je sais pas, apparemment Jean-Michel a dû
bon, d'accord, bon. Alors c'est un très bon 1-2.
Zidane a bien dribblé dans des cabines téléphoniques, donc on peut faire des 1-2 dans des
laboratoires. Chez Pfizer, ils en faisaient un petit peu des 1-2.
Comme disaient les vrais consultants, comme c'est beau,
effectivement. 7-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. On laisse le dossier du Parc des Princes de côté. Pascal, t'avais terminé?
Non, je crois que Navas, il raccroche les gars, tu vois ça.
Là, c'est compliqué là. Oui. 7-0 pour l'Espagne face à la Croatie. On revient dans une seconde pour la fin de la rencontre avec Florent Germain et on relance nos débats à partir de 19h. Est-ce qu'avec le match d'hier, les problèmes des Bleus sont oubliés, les absents, etc. 32-16.
Oh là là.
Pour débattre à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.